Pierre qui dit que je fais exprès. Mais Marc, au fond, j'attends après lui parce qu'il trouve pas le thème encore musical. C'est fou. J'ai dit, mais là, mets ça sur ton bureau d'ordinateur, clique dessus, ça va marcher.
Qu'est-ce qui est drôle?
Ouais.
C'est juste quand t'es là qu'il le trouve pas. Ah ben... Quand c'est d'autres co-animateurs, ça va super bien.
Ah! Il est trop excité, il vient me jaser ça. Puis là, finalement, Pierre, est-ce qu'on est prêt? Oui, mais j'ai une autre anecdote à te raconter. Ben, tabarouette, il arrête pas deux secondes. Puis là, quand on est prêt vraiment, là, ben, lui, il est pas prêt parce que...
En passant, oui? L'anecdote, c'était pas Pierre, c'était Jacques, son jumeau, qui te parlait.
Ah, c'est pour ça que je voyais deux personnes.
Ouais,
c'était pas un miroir.
Tu voyais double.
OK.
Maudite boisson.
Ah, c'est fou.
Les shooters à coups dessus.
Ben oui, ben c'est les shooters que probablement que tu as bu toi-même à Simmania.
Non, j'ai pas pris le shooter là.
Non?
Oh non.
Non, t'as pris de la bière, hein, je pense. T'en restes-tu, finalement?
Oui, il en reste quelques-unes.
OK, si tu en vends sur le Sim Shop?
Ça va l'être.
OK, d'accord. Ben écoute, parlons-en de Simmania. Comment ça a été?
Je sais pas.
Ah, c'est vrai! En réalité, on pré-enregistre l'émission avant Simmania. On va pas se le...
Ben oui, Marc, bravo,
qui est en train
bravo.
De m'applaudir. Parce qu'on va se le dire, tu étais dans un stress incroyable.
Ouais.
Mais tu l'es présentement parce qu'on enregistre avant Simmania. Puis on va tout raconter qu'est-ce qui s'est passé à Simmania, mais la semaine prochaine, pas aujourd'hui.
Exact.
Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'autre, mais quand Pierre va être prêt, on va introduire convenablement l'émission. Pierre, es-tu prêt?
Le catch, notre passion. WWF, WCW, POW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du Sim.
Ici l'incroyable Anson GF, animateur du Sim.
Nous sommes Sim.
Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. À l'approche des fêtes, le monde de Monsieur Fun est disponible pour votre party de Noël. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun vous dit joyeuses fêtes d'avance.
Oui, Monsieur Fun, nous sommes le 19 septembre, émission numéro 79 du Sim. Et comme je le disais avant le thème musical, on n'est pas en direct. L'émission est enregistrée avant Simmania, donc on va vous en parler la semaine prochaine. Ça laisse place aujourd'hui à un sujet qui me tenait absolument à cœur, Marc, et je crois que ça te fait triper toi également.
Oui, surtout que tu dis on n'est pas en direct. On ne l'a jamais été
non?
À un an et demi. Parce que Pierre fait le montage, on rajoute des sons. Fait qu'on n'est jamais en direct. Mais oui, l'idée que tu es arrivé au studio avec cette idée-là pour l'émission qui tombe le lendemain de Simmania, qu'on n'a pas eu le temps de justement de monter l'après Simmania qui va être la semaine prochaine. Ben combat préféré. Il n'y a pas un amateur de lutte qui n'a pas un combat préféré.
Ben non.
Bravo. Belle initiative.
Oui, exact. Parce que là, on s'est dit, OK, est-ce qu'on en laisse choisir deux, trois? Parce que moi, j'en ai deux, trois préférés, honnêtement. Mais
tu peux
on se limite à un. C'est ça le but de l'émission. Là. On va voir quand même, il y a d'autres invités qui vont s'ajouter, mais pour l'instant, on a déjà préenregistré Pat Laprade, on a déjà préenregistré André Terrien, David Jouan, on va avoir Bertrand Hébert qu'on va préenregistrer après notre intro. Donc vraiment, on a des invités de qualité qui s'en viennent également.
Oui, et ces invités-là, à part David, font partie de la brochette de collaborateurs peut-être futurs d'une émission de radio. D'ailleurs, on en a profité pour enregistrer un démo qui sera envoyé à BPM, qui est l'ancien 91.9 Sport.
Oui, parce que c'est maintenant une chaîne sportive à la radio. Hein?
Oui, trois avec Gatineau, ben Hall, c'est Hall, Montréal. C'est Hall ou Gatineau?
Gatineau maintenant.
OK, Gatineau, Montréal et Québec. Québec, c'est bien... Québec?
Non, c'est rendu Sainte-Foy.
Ah, c'est... Non, c'est... Pas Lévis?
Non, non plus. Gatineau, oui, que je suis allé visiter tout récemment. Donc, un beau marché de lutte grâce à ce qui se passe avec Lutte Pro Gatineau, grâce à Lutte 07 et grâce à la C4 du côté d'Ottawa et d'autres fédérations également pas loin de la frontière. Donc, Marc, aujourd'hui, on veut vraiment... est-ce que nous autres, est-ce qu'on parle de nos combats préférés maintenant ou on
oui.
laisse place à une publicité?
Oui,
non, non, on en parle maintenant?
On y va, oui.
OK,
on
d'accord. C'est quoi ton combat préféré à toi, mais de tous les temps? Là. Pas de deuxième, pas de plan B, pas de plan C, mais ton combat préféré.
Quand j'ai commencé, moi, les années de la WWF, où j'étais soit animateur de ring ou j'étais intervieweur là, dans cette période-là, 87-88. Et encore aujourd'hui, si je suis assis près du ring, autant pour Impact ou autre, et que j'embarque dans l'histoire, le mot « histoire » va revenir souvent dans l'épisode avec nos invités. Tu sais, j'ai un gestuel, j'embarque. C'est comme presque si je frappais à la place ou, tu sais, je bouge beaucoup quand je regarde un bon combat qui m'amène vers...
l'émotion.
Exactement. Et moi, ça a été Randy Macho Man Savage et... Ricky the Dragon Steamboat.
À WrestleMania 3.
Donc, oh, ils en ont fait plusieurs. Okay. Et chacun des combats, j'en ai vu au forum, c'était parce que dans ce temps-là, vu qu'il y avait moins de... il n'y avait pas de réseaux sociaux, hein, il n'y avait pas toute la possibilité qu'Internet nous amène aujourd'hui. Fait que ces combats-là, moi, je l'ai vu live, OK? Puis c'était pas à WrestleMania, je l'ai vu live. Donc, c'était deux lutteurs... incroyable, une histoire qui est racontée. Vraiment, j'imagine mal que Pat Patterson n'était pas derrière ce combat-là, mm-hmm. tu sais, pour le monter. Là. C'est un combat que je... Toi, tu parles de WrestleMania, lequel?
Le troisième. Donc, le main event, c'est André le Géant contre Hulk Hogan. Mais ce combat-là, en tant que match lutte pur, a volé la vedette.
Wow. Fait que moi, c'est ça mon top 1, parce qu'on a le droit à 1.
Oui. T'en souviens-tu quelle ville?
Moi, je pense que je l'ai vu à Montréal.
OK, d'accord.
T'es
annonceur de ring.
Oui, exactement. Et comme je te dis, dans ce temps-là, ils pouvaient faire le même combat dans plusieurs villes parce que le monde ne suivait pas. Il n'y avait pas accès à l'information.
Exact.
Fait que, c'était...
C'était magique, la lutte, à ce moment-là, parce que tu découvrais le... Peut-être qu'est-ce que les lutteurs faisaient le même combat un peu partout, mais tu découvrais vraiment le combat de tes yeux vus que lorsque tu te déplaçais à un événement en direct sur place dans ta ville à toi.
Et en plus, comme le combat était fait à plusieurs reprises dans différents marchés, les lutteurs impliqués devaient performer, se challenger, se défier eux-mêmes, parce que quand on répète la même affaire, comme des acteurs de théâtre.
On le peaufine.
Oui, oui, tu le peaufines, mais aussi, il ne faut pas que ça devienne comme une habitude.
Oui.
Il faut que tu te défies pour performer à chaque fois, comme les comédiens de théâtre d'été ou autre, parce que c'est pas parce que ça fait 100 fois que tu joues la pièce que tu peux être trop confortable.
Exact.
Et les lutteurs, dans ce temps-là, performait à chaque combat.
À ce moment-là, on peut comparer le peaufinage, le fait de tout le temps en demander plus à soi-même. Moi, je compare ça aux humoristes actuellement. Exemple, le Bordel Comedy Club.
Ouais.
Donc, on va peaufiner les numéros à cet endroit-là. Et ensuite, on le présente devant un grand public. Donc, j'imagine, c'est qu'est-ce que Macho Man et Ricky the Dragon ont fait avant WrestleMania 3.
Et l'époque faisait en sorte que même si le dénouement du combat pouvait être le même partout, le combat pouvait changer parce que c'était pas aussi scripté qu'aujourd'hui. Les gars avaient quand même une ouverture. C'est aujourd'hui, tu sais, chaque mouvement est presque minuté et tout ça.
C'est comptabilisé selon les codes d'écoute, d'ailleurs. Donc, c'est la machine, surtout la machine WWE, sait très bien qu'est-ce que le téléspectateur veut par mouvement, par qu'est-ce qu'ils disent dans les promos. Donc, c'est qu'est-ce qui est complètement différent de ton époque à toi, de l'époque de ce combat-là.
Et dans ce temps-là, les lutteurs avaient la liberté. D'abord, que ça finissait de telle façon que l'histoire était contée. Fait que pour eux autres, de se renouveler combat après combat, même si c'était le même outcome, le même dénouement, le même gagnant, c'était mieux. En tout cas, pour moi, ça a été magique. Et toi, Jean-François, quel est ton combat préféré?
Marc, qu'est-ce que tu appelais mon bateau à l'époque? C'est quoi?
Ah, ton gros Buick?
Buick Century 1993.
Oui. Bateau.
Je l'ai acheté en 2002. Ça te laisse un indice sur mon combat parce que le lendemain que j'ai acheté mon Buick, je prenais la direction de Toronto. Donc, j'ai acheté mon Buick Century, mon premier véhicule à vie. Je n'ai jamais conduit sur l'autoroute. Je me suis dit, bon, je la jette à ce moment-là. C'est pressant parce que je veux aller à WrestleMania. Donc, j'arrive à Toronto. Je suis allé à Fan Access. Je suis allé à WrestleMania le lendemain, qui était WrestleMania 18.
Tu avais quel âge?
2002. À ce moment précis-là, ben, j'avais 21 ans.
OK.
Donc, j'avais 21 ans lors de ce WrestleMania 18-là. Et un des événements principaux, parce que le vrai main event de la soirée, c'était Triple H contre Chris Jericho. Deux combats avant, Hollywood Hulk Hogan contre The Rock. C'était le combat qui m'a donné des frissons. J'avais eu des passes grâce au réseau des sports RDS à ce moment-là. J'étais assis dans une loge avec d'autres journalistes étant de NBC, de ESPN, de la grosse gomme américaine, qui n'étaient pas tout à fait impressionnés par le spectacle parce que c'était des journalistes sportifs à la base, des journalistes culturels qui n'étaient pas nécessairement fans de lutte.
Okay.
Mais à ce combat précis-là, tout le monde regardait Hollywood faire son entrée sur le ring, The Rock faire son entrée sur le ring, et j'en avais des frissons. Là. Juste au moment que Hogan est entré sur le ring, au moment qu'il a fait son Hulk Up, qui s'est réveillé, parce qu'à ce moment précis du combat-là, j'oubliais que Hogan pouvait revenir à lui spontanément. Là.
Ouais.
Il l'a fait. Puis aussi le fait qu'au combat, Hogan était plus populaire que The Rock, c'était pas ça dans les scénarios. Là.
Non,
The Rock
sûr.
Devait être vraiment le lutteur favori de la foule. C'était un combat spectaculaire qui m'a donné, carrément, j'en parle encore aujourd'hui, j'en ai des frissons, et c'est le seul combat de la WWE, le seul combat mondial qui m'en a donné, juste le fait d'être là devant plusieurs dizaines de milliers de personnes au Sky Dome à Toronto.
Celui que Sylvain Grenier était...
Non, lui était Sylvain Grenier à WrestleMania 19.
Comme arbitre,
c'était entre Vince McMahon et Hulk Hogan.
OK.
Donc, ça, c'était une année après. Okay. Parce qu'avec le combat à WrestleMania 18, Hogan, la WWF, à ce moment-là, a réalisé que Hogan était encore très populaire et plus populaire que jamais. La foule voulait vraiment revoir Hulk Hogan à la WWF. Et un de ceux qui a monté le combat, ou du moins qui a participé au combat, c'était Pat Patterson. Et j'ai eu l'opportunité de parler avec Pat de ce combat-là. Il m'a dit qu'il a dit quelque chose à Hogan. Puis c'est brillant. Il dit, « Hogan, you don't have to do much, but what you do, do it good. » Je pense que c'est un des seuls qui peut dire ça à Hulk Hogan. Hein?
On traduit ça en disant, « T'es pas obligé d'en faire trop, mais ce que tu fais, fais-le bien. »
Oui.
Ça devrait être pour chaque lutteur, ça.
Exactement. Oui. Autant dans n'importe quel style de lutte. Là. Puis le combat, ma foi, c'est au début, c'était la foule scandait. La foule voulait que Hogan remporte le combat. Malheureusement, pour la foule et pour moi-même, Hogan a perdu. Mais l'après-match, Kevin Nash, Scott Hall qui viennent sur le ring, qui se tournent le dos contre Hulk Hogan, attaque Hulk Hogan, The Rock revient pour quand même porter main forte à Hulk Hogan. C'était un moment magique, mais magique pour moi. Première voiture, première ride officielle. J'aurais pu me faire frapper sur l'entrée d'autoroute. Je m'en rappelle comme c'était hier. Là, j'ai fait n'importe quoi pour rentrer sur l'autoroute parce que je ne savais pas comment faire, juste parce que je voulais aller voir ce combat-là en particulier.
Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui aussi, tu fais n'importe quoi pour rentrer sur l'autoroute.
Woo! Oui, mais si je me ferme les yeux, boum!
Mais... C'est bon. Ben oui, écoute, t'en parlais, puis je sais pas si ça l'a acclimatisé dans le studio, mais moi aussi, j'avais la chair de poule.
Mais Hogan, c'est lui qui a marqué mon enfance, premièrement. J'ai grandi grâce à Hulk Hogan, puis ensuite, quand il est arrivé The Rock, ben, il y a eu plusieurs personnalités, Rocky Maiva, The Rock par la suite. J'ai trippé sur lui au moment qu'il s'est appelé The Rock, mais je voulais pas qu'il gagne. Je le huais. WrestleMania 18, là. Wow. Je voulais qu'Hogan gagne. Là. J'étais tellement heureux qu'il soit de retour.
Fait qu'on a parlé mon combat préféré, le tien. Puis après la pause, on va avoir Pat Laprade. Lui va nous dire son combat préféré, c'est lequel. Pour tous les produits, vêtements et accessoires à l'effigie du CIM, soyez-y, mesdames, messieurs, votre podcast. Visitez notre boutique en ligne, sim.shop. En passant, ma bio, la grande histoire de ma petite vie, y est disponible. Sim.shop.
On est au bout du téléphone, Marc, nul autre que Pat Laprade. Pat qui a fait son nom. Il a fait son nom, il a écrit des livres, il est animateur à la télévision. Je veux absolument connaître son combat préféré, celui qui lui a marqué le plus dans son histoire à lui. Alors, Pat, bienvenue tout d'abord au podcast Sim encore une fois.
Ben merci de l'invitation encore une fois.
Et j'aimerais vraiment connaître ton choix. C'est quoi ton combat préféré, mais de tous les temps, là, celui qui se démarque le plus?
Moi, je veux juste, avant, je vois si Pat va être un peu pogné comme toi et moi, on l'a été au début, à être capable d'en choisir un.
Oui.
T'sais, ça, j'ai hâte de voir comment il a fait pour l'entonnoir des combats marquants de sa vie. Ça ne devait pas être facile, Pat, d'en choisir un.
Ben, c'est pas facile, mais il faut retourner à la question. Quel est mon combat préféré? Et non pas nécessairement le meilleur combat que j'ai vu ou celui, le meilleur combat que j'ai vu et que j'ai assisté en direct là, dans l'aréna ou dans le stade. Puis, quand on parle de préféré, ben c'est comme quand on me demande c'est qui mon lutteur préféré de tous les temps. Moi, je reviens toujours à mon enfance. Parce qu'on voyait la lutte différemment à ce moment-là. On n'était pas aussi connaisseurs qu'on l'est aujourd'hui. Bon, certains diraient que JF Kelly n'est pas plus connaisseur maintenant, mais ça, c'est une autre histoire. Mais,
je ne l'ai jamais été, Pat.
mais
commun, JF et moi.
Mais sans farce, j'aime ça retourner à mon enfance. Puis moi, le combat qui m'a le plus marqué dans mon enfance, c'est WrestleMania 3, le géant ferré contre Hulk Hogan en finale devant, bon, là, les chiffres ont changé avec les années, mais devant plusieurs dizaines de milliers de personnes au Silver Dome à Pontiac, Michigan. Pour moi, c'est un match qui va rester mythique. La cassette de WrestleMania 3 chez Bertrand Vidéo, c'est la rue Ontario, dans Schlager Maisonneuve. Si je ne l'ai pas loué 20 fois, je ne l'ai pas loué une fois. Je la savais par cœur en français, je la savais par cœur en anglais, parce que les deux étaient disponibles. C'était Édouard Carpentier, Guy Auré, Frenchy Martin qui faisaient les commentaires pour la version francophone. Et puis, c'est un match qui était tellement plus grand que nature. Et c'est vraiment ça que Vince voulait nous présenter. D'ailleurs, c'était une histoire. Il avait réinventé l'histoire pour nous faire croire que c'était la première fois que les deux s'affrontaient, ouais. Que le géant s'était jamais fait donner un body slam. Donc, il y avait tout le mythique en arrière de ça. Le géant qui était un méchant. Moi, je l'avais connu, le géant, en babyface quand il était ici à Montréal pour Lutte internationale ou au début avec la WWF. Donc, il y avait tout ça qui était en jeu. Puis c'est un match que je pourrais jamais oublier. Puis le pire, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir écrire sur ce match-là il y a quelques années, lorsqu'on, moi et Bertrand Hébert, on a fait notre livre sur le géant ferré, et on a réalisé, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que WrestleMania 3, c'est un peu la fin du géant ferré, alors que dans le fond, cette rivalité-là entre André et Hogan, c'était le début des pay-per-view pour la WWE. Ça a influencé chacun des pay-per-views qui ont suivi. À l'époque, la WWE n'en avait juste un, c'était WrestleMania. Mm-hmm. Et la rivalité était à la base même là, du premier SummerSlam, du premier Rumble, du premier Survivor Series. Donc, c'est un match qui a tellement une grande importance, mais moi, ça va toujours être un match qui, je le sais, je le regarde aujourd'hui, puis c'est pas le meilleur des matchs, mais à ce moment-là, j'avais 10 ans, puis la foule qui est là ne le comprend pas non plus. Puis quand tu sais en plus que le géant ferré avait beaucoup de problèmes à son dos, d'ailleurs, il s'est fait opérer quelques temps après, mais tu vois le match avec une autre paire de yeux, puis c'est vraiment, il y a un côté romantique à ça, je trouve, qui est vraiment, vraiment fabuleux, puis c'est toujours un match que je vais me rappeler.
Toi, tu n'étais pas là, là.
Moi, j'avais 10 ans, Marc. Non, j'étais pas...
Mais à 10 ans, est-ce que tu commençais à compter le monde dans les estrades?
Pas plus. À 10 ans, je croyais vraiment qu'il y avait 93 000 personnes à ce moment-là dans le stade, alors qu'il n'y en avait réellement que 78 000. Mais c'est pas moi qui les a comptés.
Mais t'imagines-tu, Pat, comment c'est débile que moi, j'étais là puis je m'en souviens pas?
Mais il y a bien des affaires que toi, tu étais là, Marc, puis tu te souviens pas.
Ouais. Mais je peux pas en parler. Je peux pas en parler. Je m'en souviens pas.
Mais tu te souviens de rien de cette journée-là ou tu te souviens pas du match?
Écoute, ce que je me souviens, c'est du stationnement puis du building.
Ben, au moins, il y a ça.
Hey, c'est incroyable. Je capote. Quand je l'ai parlé avec Bertrand et qu'on en jase dans mon livre, là, ce qu'on ouais. se disait, c'est incroyable de ne pas se souvenir de WrestleMania 3. J'ai parlé avec un producteur qui travaillait avec nous autres dans ce temps-là. Il dit, ben oui, on est ensemble. Regarde, qu'est-ce que je te dis? Hein?
Ben, puis toi de poisson. Puis j'imagine que tu ne sais pas plus qu'est-ce que tu as fait lors de cet événement-là.
Tu as vu
des lutteurs, tu sais pas?
Aucune idée.
Parce que de mon souvenir, de gars qui a regardé la cassette en français 20 fois, je me souviens pas qu'on me voit sur le Coliseum vidéo francophone. Là,
non, je suis pas là. David Juin, il a cherché partout, je suis pas là. Pourtant, ouais, j'étais déjà impliqué dans certaines choses, mais je n'étais pas là. Regarde, qu'est-ce que tu veux?
Ben, coudonc, mais t'étais là, mais t'étais pas là.
Exactement.
Ben moi, écoute, j'en ai un bon souvenir, puis ben je te le partage, comme ça tu pourras prendre mon souvenir à partir de maintenant.
C'est bon, tu me passeras ta cassette à un moment donné.
Très bon souvenir partagé d'ailleurs, Pat, qu'on peut écouter aux Antipodes de la lutte, qui est un de mes podcasts préférés, mais pas seulement de lutte, là, mais de mes podcasts préférés que vous pouvez écouter avec Kevin Raphaël. Écoutez ça en grand nombre, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous allez être très agréablement surpris.
Ben, un gros merci, c'est bien gentil, JF.
Alors, merci, Pat. À la prochaine.
Hey, salut. Bye-bye. À la prochaine.
Bye. Simmania 1 est déjà qu'un souvenir. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cet événement qui soulignait mon retour à titre de producteur de lutte. D'ici Simmania 2, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.
Hey, notre prochain invité, Marc, au Sim. Mais premièrement, c'était un de tes bookers à Simmania. On va reparler de l'événement. On se le cachera pas. Simmania, ça avait lieu hier.
Ouais.
Mais on enregistre avant Simmania. Donc, on va en reparler la semaine prochaine.
C'est sûr.
Un de mes bookers préférés avec qui j'ai eu le plus de fun, c'est André Terrien, c'est Drenuc. Et c'est lui qui bookait les combats à la NCW lorsqu'on collaborait ensemble, lorsque j'étais l'annonceur de ring. Et c'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui pour parler de son combat qu'il a aimé.
Juste, ce qui est drôle, c'est que tu mets Drenuc et fun dans la même phrase.
Ah oui, bien, parce que j'ai eu carrément du plaisir. Il sonnait la cloche, c'était le timekeeper pendant qu'il était booker. Comme ça, il y avait une vision sur le ring de lutte pendant que moi, j'annonçais. Puis, on était un à côté de l'autre. On a vraiment du fun, là, du gros fun sale,
oui,
comme on dit.
Il travaille avec moi dans le monde de Monsieur Fun à plusieurs reprises.
Oui.
Puis, je l'appelle Capitaine Sourire d'une façon moqueuse parce que c'est pas le gars le plus souriant du monde. T'sais.
Mais super agréable avec une personne
là,
agréable à parler.
S'il est là, j'aurais pas dû dire des affaires de même.
Il est là, puis il va nous parler de son combat préféré. Salut, Drenuc!
Salut tout le monde. Ah oui, Marc, j'ai tout attendu, mais j'ai le sourire et grand fendu cette fois-ci.
C'est bon, c'est bon.
Non, bien, Drenuc, vraiment, comme je le disais, tu l'as entendu, tu es le spécialiste pour monter des combats. Tu l'as prouvé en tant que scripteur à la NCW. Tu le prouves encore avec Simmania.
Hier.
Donc, tu l'as prouvé hier. Puis d'ailleurs, Marc, je pense que tu as aimé son travail. Tu vas le réengager pour Simmania 2.
Je dirai ça la semaine prochaine.
D'accord. Donc,
Drenuc va être dans mal.
C'est ça. Tu voulais pas être payé cash?
Alors, Drenuc, t'es le spécialiste pour monter des combats de lutte au Québec, mais on va regarder peut-être plus vers ton enfance, ton adolescence, ta jeune vie d'adulte. Quel a été ton combat préféré à toi?
C'est sûr que lorsqu'on est jeune, il y a des combats qui nous marquent. On parle encore aujourd'hui de Macho Man contre Ricky Steamboat. Mais à l'adolescence ou à ma vie d'adulte, le combat qui me marque encore aujourd'hui, il y a mon idole là-dedans. C'est Bret Hart qu'il a combattu contre Stone Cold Steve Austin à WrestleMania 13. Pour moi, dans ce combat-là, il y avait de tout. On parle pas de tout comme on parle de pirouette, mais je veux dire, les gars, ils allaient avec leurs aptitudes. C'était un combat, si je m'en rappelle, c'était un I Quit match avec un arbitre spécial, Ken Shamrock. Puis moi, ce que j'apprécie de la lutte, là, c'est ça que je parle de talent, c'est racontez-moi une histoire. Parce que oui, c'est beau l'exécution, mais c'est l'exécution qui me fait que je suis en train de lire un livre ou je suis en train de regarder un film d'action. Puis qui m'accroche du début à la fin, ils ont réussi avec ce combat-là. Qu'est-ce qui est surprenant aussi avec ce combat-là, c'est par la suite, mais ça a développé que Bret Hart, il a viré heel, puis Stone Cold, mais il a eu la faveur du public, parce qu'il n'a pas abdiqué à la fin du combat, c'est comme il a abandonné par fatigue. Donc, il a prouvé à tout le monde qu'il avait de la bravoure dans le corps.
Il était complètement ensanglanté en plus.
Oh oui,
c'est
puis,
fou l'image que j'ai dans la tête présentement.
Pour les sceptiques là, qui disent que c'est du ketchup, là, ce que tu forces, puis tu vois que le sang il gicle de son front, pas des effets spéciaux. Non, c'est ça rajoutait au réalisme aussi. Lorsque je pense que c'était Stone Cold qui était assis dans le coin, puis Bret Hart l'a chargé, mais paf, le coup de pied est arrivé dans la face, je pense, du sonneur de cloche ou le gars des relations publiques dans le coin. Fait qu'encore là, c'est arrangé que le gars des vues, mais c'est tellement réaliste que le gars l'a bien vendu et tout. Là.
Est-ce que
donc, pour moi, Stone Cold contre Bret Hart à WrestleMania 13, c'est mon combat préféré.
Puis, pour un gars comme toi, Dre, qui voit tellement de luttes, ça doit avoir été difficile d'arrêter ton choix ou si c'était clair dès que je t'en ai parlé par texto?
Mais j'en ai parlé. Je parle de ce combat-là parce que tout le monde écoute la WWE. Je pourrais revenir. Regardez, si j'avais nommé les Midnight Express contre les Wild Southern Boys en 90, c'était, je pense, les ceintures par équipe du Sud des États de la WCW. T'avais Jim Cornette dans le combat, donc ça aussi, c'est un combat qui m'a vraiment marqué. C'est une belle histoire de championnat par équipe. Puis, si je parle de lutte locale, regarde, récemment, là, c'est pas mon meilleur, mais ça m'a marqué. Dimanche, j'ai vu une recrue, Yane Harrison, qui a fini deuxième l'année passée, contre Loïc Duplessis. Loïc Duplessis, tout le monde le sait, c'est pas le plus talentueux, mais c'est celui qui sait comment agir dans un ring, que ce soit par ses manigances, que ce soit par son verbal. Donc, le combat, encore là, comme je dis, Bret Hart et Stone Cold, il y avait toutes les recettes pour avoir... il y avait tous les ingrédients pour une bonne recette de gâteau, mais Loïc Duplessis contre Yane Harrison, je les ai même rencontrés à la fin pour dire que les gars, vous avez fait le combat de la soirée.
La soirée, on dirait le combat du Québec à tes yeux jusqu'à maintenant?
Ben, c'est ça. J'ai pas besoin des tops pour m'éclater, moi, encore. Là, c'est... donnez-moi une belle histoire, donnez-moi une belle chimie, donnez-moi surtout une foule qui va être endiablée. Puis, vous pouvez, mettons, faire l'anglicisme, le high poke dans les yeux 5 fois dans le combat si ça a un but, puis le monde, sont émotifs envers ça, mais moi, ça me complète.
Puis, wow. Tu as parlé de Harrison contre Duplessis en revenant sur le combat entre Stone Cold Steve Austin et Bret Hart. Ma question que je me pose, est-ce qu'il y a eu un avant et après Stone Cold Bret Hart dans ta tête à toi? Est-ce que ça a complètement changé de ta philosophie de la lutte?
Ben oui, je veux dire, ça a un peu commencé un peu avant, mais là, avec Stone Cold, c'est là qu'on a commencé à apprendre pour les méchants.
Oui,
les heels, c'est on c'est pas qu'on s'identifiait à eux, mais je veux dire qu'on ouais, d'une certaine façon, on se reconnaissait plus en eux. C'est pas à cause qu'ils font des coups illégaux, des coups cochons. Je dis Stone Cold, c'est pas celui qui en faisait le plus, mais tu voyais qu'il était plus rude dans son exécution.
Quelle année on parle, JF ou André?
Je crois que c'est 96-97.
Oui, donc c'est 1997, c'était au début de l'année.
Donc, parce c'est que en même temps que moi, je vivais la NWO aussi, ouais. Que les heels, il y avait une bonne réaction face aux heels. D'un côté, tu avais Stone Cold, de l'autre côté, tu avais NWO. C'est à peu près dans la même
effectivement.
Époque.
Effectivement. Parce que c'est après ça qu'ils ont développé Stone Cold. Ben, c'est un an après quasiment Stone Cold qui s'est révélé contre Vince McMahon. Puis...
Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait, parce qu'on parle du début, j'imagine que c'est en mars 97 qu'a eu lieu WrestleMania 13. Puis c'est plus tard dans l'année qu'a eu lieu le Screwjob Survivors 97 à Montréal, exact. Survivor Series 97. Donc tout est arrivé en 97. C'est vrai que finalement, un bon choix de combat pour l'avant et après WWF pour tous les âges et pour le. L'attitude?
Oh oui, on peut dire que c'est quasiment le combat pré-attitude.
Oui, ben écoute, André, un gros merci d'avoir été avec nous au CIM. Ton feedback, moi, dire comme toi, excusez l'angliciste, est toujours apprécié. Puis on va voir ce que nos autres invités vont sortir comme leur combat préféré. Un gros merci, Drenuc.
Mais un gros bienvenue de mon côté, ça fait plaisir, puis bon succès à Sim.
Thank you, bye-bye.
Salut, Dre. Super intéressant, Drenuc. Je te l'avais dit, Marc, là, il connaît, sait comment faire un combat de lutte. Et puis vraiment, là, Stone Cold Steve Austin contre Bret Hart, c'est un combat que j'ai tendance à oublier, mais un vrai bon combat.
Je suis content parce que à date, nos invités, personne n'a choisi le même combat. Je ne sais pas si ça va être comme ça jusqu'à la fin. On a plusieurs invités. Et comme tu le dis, je ne sais pas si tu le dis pendant le podcast ou avant qu'on enregistre,
oui.
Mais on va sûrement faire une deuxième et peut-être même une troisième partie avec des fans et d'autres invités. Quel est votre combat préféré? Mais là, on est allé loin. On a dit à Pierre, sors les bidous. Appelle en France et on a parlé à notre collaborateur, celui qui fait tellement un bon travail pour nous, David Jouan, que tu appelles David Jouance.
Non, c'est pas vrai ça. C'est le contraire. Moi, je l'appelle Jouan. Ben, tu vois, écoute l'entrevue qu'on a préenregistrée. Tu vas voir que tu avais tort.
Oui, mais si tu écoutes toutes les fois que je parle de David, jamais j'ai dit jouance. Parce que toi, le problème, c'est que le mot jouance te fait penser à jouissance. Et c'est là qu'on est dans le trouble.
On écoute David Jouan. On est international au CIM. Une belle preuve, nous avons un collaborateur, mais tout un, celui qui collabore sur les médias sociaux du CIM. Nous avons David Jouan avec nous. Est-ce que je prononce bien d'abord ton nom de famille, Jouan? C'est bien ça?
C'est parfait, c'est exactement ça.
Bonjour. OK, parce que Marc me disait jouance, donc il n'y avait pas raison tout ce temps-là.
Non, non, c'est bien jouant.
Alors, nous avons David Jouan avec nous. Et sérieusement, merci pour tout ce que tu fais pour la lutte en français. Tu es un archiviste incroyable.
Ben, on essaye de faire au mieux pour récolter les petites pépites qui traînent à droite, à gauche, mais c'est pas évident maintenant.
Oui, c'est des vraiment là, c'est des bijoux. Donc, que ce soit dans la lutte, dans les archives, dans la plus vieille lutte dans les années 70, 80, 90 ou maintenant, c'est vraiment génial tout ce que tu fais. J'ai d'ailleurs retrouvé des archives de qu'est-ce qu'on fait au Québec grâce à toi. Donc, pour ça, merci. Et parmi tes archives, je suis persuadé que s'y trouve ton combat préféré.
Alors, un combat préféré, c'est toujours compliqué d'en sortir un.
Oui, vraiment, mais j'en veux un aujourd'hui. Je veux qu'on se casse la tête.
Voilà. Bon, ben, de base, j'aurais répondu tous les combats avec Bret Hart, mais si je dois en sélectionner un, je vais sélectionner avec d'autres lutteurs et je vais partir sur le match de WrestleMania 10 entre Razor Ramon et Shawn Michaels, le match
D'accord.
de l'échelle.
Oui, ça, c'est un très bon choix. Donc, on va se baser sur ce combat-là. Qu'est-ce que tu as aimé en particulier? Est-ce que c'est l'histoire ou le combat en tant que tel?
Eh bien, les deux. Alors, c'est ce que je disais en introduction. Déjà, quand on choisit un meilleur combat, tout dépend si on est investi, on va dire, dans l'histoire ou pas. Donc, je pense que déjà, ça commence par là. Et donc, l'histoire, là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vécu il y a quelques semaines à la All Elite Wrestling avec le titre intérimaire avec CM Punk. Et John Moxley, donc là, d'avoir Shawn Michaels qui doit remettre son titre parce qu'il ne le défendait pas ou pour d'autres raisons plus obscures, mais un Razor Ramon qui est couronné champion et ensuite cette rivalité qui va reprendre et qui va nous emmener à WrestleMania 10 dans un match de l'échelle. Alors, même si ce n'est pas le premier match de l'échelle à la WWF, pour beaucoup, il est considéré comme le
combat
premier.
Qui est rendu populaire, le combat de l'échelle.
Je pense, oui, définitivement. Et quand on parle aujourd'hui de spots durant un combat, c'est vrai que maintenant, dans les pay-per-view, on est habitué à voir beaucoup de spots. Ce n'était pas le cas à l'époque et ce combat est venu vraiment nous surprendre. Moi, à l'époque, j'étais tout jeune, en 94. Donc, quand j'ai vu ça à la télévision, ce combat était surréaliste pour moi.
Mais pour qu'on sache qui tu es vraiment, en quelle année à peu près tu as commencé à regarder la lutte professionnelle avec passion?
Alors, c'est dans ces années-là, j'ai commencé à regarder ici et là en 93. À partir de 94, j'ai commencé à regarder un peu les pay-per-view. Et à partir de 95, j'ai commencé non seulement à regarder, mais à tout enregistrer, ce que je pouvais.
D'accord. Mais je pose la question que je pose à tout le monde quand je veux savoir c'est lequel le meilleur combat. Est-ce que, pour toi, il y a eu un avant et après Shawn Michaels contre Razor Ramon à WrestleMania 10? Est-ce que ça a été un déclic pour toi, ce combat-là?
Alors, ça a été le combat, souvent, on va dire, quand on montre à des personnes qui ne sont pas fans de lutte, ça a été le combat que je choisissais pour montrer. Quand on me disait, mais pourquoi tu regardes du catch? Regarde. C'était pour moi l'étalon, on va dire, le match étalon pour toujours cette petite guéguerre que vous connaissez aussi. Hein. C'est arrangé, donc c'est pas bien. Donc, et là, du coup, avec ce combat à l'époque, même dans la tête des non-fans, on mettait le doute.
Ah oui, mais d'accord, mais ça, c'est quand même c'est l'argument que j'utilise souvent, moi, avec un autre combat, Eddie Guerrero contre Rey Mysterio Jr. à Halloween Havoc. Ça, c'est un combat que j'utilisais fréquemment, et c'est le fun de savoir qu'un autre fan ailleurs dans le monde utilise un combat de lutte, justement, pour convaincre les sceptiques du catch, de la lutte, que c'est un beau sport, que c'est une vraie passion.
Oui, oui, tout à fait. Et le match que tu cites, ben justement, on est tout à fait dans l'exemple, on va dire, de la prouesse athlétique. Donc, on peut aller vers ce type de combat-là, vers des combats un peu plus rudes, un peu plus choquants. Et tout dépend comment on était investi dans ce combat. Moi, typiquement, le combat d'Halloween Awok, je l'ai vu, c'est un très bon combat, mais je l'ai vu après. J'étais moins dans les histoires, donc j'étais moins happé dans le match.
D'accord, oui, je comprends tout à fait. David, ce fut un plaisir de te parler. Puis encore une fois, là, si vous voulez voir qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux pour toutes les activités du CIM, c'est la majeure partie, c'est grâce à David. Depuis que tu as pris le contrôle des médias sociaux, c'est vraiment spectaculaire de ce côté. On te remercie beaucoup.
Merci, merci à vous.
Avec l'arrivée de l'automne et ses belles journées colorées, dégustez ma bière, la Bitter Bécieux, offerte par la microbrasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Il reste encore quelques caisses de cette bière sûre au goût de cerise, noire-et-blanche.ca pour plus d'infos.
Très content, Marc, d'introduire celui que je vais introduire, celui qui aime dire I'm Bertrand Hébert Guy en parlant de moi. Donc, vous l'avez entendu son nom dans mon introduction. Voici nul autre que Bertrand Hébert. Très content de l'avoir au podcast aujourd'hui. Salut Bertrand.
Salut. Merci pour l'invitation.
Comment ça va, mon Bert?
Ça va. Toujours occupé, mais ça va.
Ça bouge, hein? Ça bouge dans le monde de la lutte.
Ça bouge sans cesse dans le monde de la lutte.
Écoute, la question qu'on a posée à plusieurs personnes pour l'épisode, une idée de Jean-François que j'ai trouvée merveilleuse, qui est très rare que des bonnes idées, lui-là, c'est quoi ton combat préféré? On a eu à date avant toi, on a eu, bien sûr, j'ai parlé du mien, JF a parlé du sien, ton ami, collègue Pat Laprade a parlé du sien, Drenuc a parlé du sien, David Jouan en France, et là, c'est à ton tour pour conclure l'épisode numéro 79. Bert, c'est quoi, c'est quel combat préféré pour toi?
La liste serait quand même assez longue, mais un que à laquelle je pense souvent avec beaucoup de nostalgie, c'est le premier combat entre Dino Bravo et Ricky Martel dans les belles années de lutte internationale au Colisée de Québec. On en avait fait toute une histoire, on avait marié à ça la rivalité Montréal-Québec qui était à son maximum entre les Nordiques et les Canadiens. Et les deux étaient restés des favoris de la foule. Dans tout ça. Édouard Carpentier était l'arbitre. Et on avait présenté le combat à la télévision, ce qui était exceptionnel de présenter un combat comme ça entre deux vedettes à la télévision dans le temps. Et sur plusieurs semaines. Donc, on avait un 5 minutes la première semaine, la suite la semaine prochaine, et ainsi de suite.
Ah oui, donc, ça, c'est rare que ça ait été fait, ça.
Exact. T'sais, on a vraiment étiré, puis là, tout ça était pour construire aux deux combats revanches. Il y en a eu un au Colisée, puis il y en a eu un à Montréal au Forum. Et ultimement, conduire à la réconciliation, puis au mariage de Bravo et Martel en équipe là, pour affronter les Road Warriors. Mais ce combat, c'était exceptionnel. Là. Puis là, c'était vraiment qui va être le meilleur. Puis là, à Québec, ben, Dino est un petit peu plus cochon dans ses mouvements. Là, il fait un mouvement, puis il gagne, puis en se lançant à travers les câbles, il tombe les pieds sur la deuxième corde, les pieds restent sur la deuxième corde, puis Carpentier ne voit pas ça, puis là, il compte 1, 2, 3, puis il récupère. Fait que là, il avait comme triché, mais il ne savait pas, puis là, l'arbitre ne l'a pas vu. Ricky avait Vern Gagné dans son coin, il en avait fait toute une grosse histoire, puis au travers de tout ça, dans la suite de ça, ben Dino va conserver le championnat international, mais Ricky va devenir champion du monde de la AWA. Donc, pour moi, ça demeure un match que je croyais ne jamais revoir. Puis quand on a lancé à la semaine prochaine, si Dieu le veut, on est finalement tombé sur quelqu'un qui avait des images de ça. Et j'ai pu finalement revoir le combat Ricky Martel-Dino Bravo, qui est sur notre premier DVD. Et pour moi, là, c'est vraiment un match très, très spécial. Parce que ça prédate mon acquisition d'un VHS. Donc, je me souviens, là, je faisais des exprès pour savoir où c'est que je vais être dimanche prochain à 11h pour être sûr de ne pas le manquer. Un coup, j'étais chez mes cousins. Puis là, c'est comme je les ai forcés à regarder la lutte parce que là, on peut pas manquer la troisième partie du combat. Donc, c'était vraiment, là, pour moi, nostalgiquement parlant, un match important là, dans mon fandom, là, comme on dit. Là. Parce que plus tard, là, c'est sûr, j'ai vu des matchs qui étaient sûrement meilleurs que ça, mais émotionnellement, et nostalgiquement, c'est clairement mon match préféré de tous les temps.
Et ce match-là, toi, tu l'as vu, ces segments-là, là, les petits cinq minutes, c'est ça que tu as vu avant de le revoir au complet. Tu n'étais pas présent.
Exactement, originellement. Puis c'est ça, si ma mémoire est bonne, maintenant que tu me le rappelles, il avait fait comme 3-4 semaines, petit bout par petit bout. Puis après ça, il avait montré tout d'un bloc au complet dans l'émission d'après.
Puis on parle de quelle année à peu près?
Ça, bravo Martel, c'est 83, 84.
Je t'ai même pas né.
Oh yeah!
Ben non.
Mais Bertrand...
On peut voir tu... livre que t'es né en 1992.
Oui, c'est vrai ça.
Mais Bertrand, tu as parlé que c'est disponible sur ton DVD. Comment qu'on peut se procurer ce DVD-là? Parce que moi, ça m'intéresse de revoir, de voir tout court ce combat-là parce que tu en parles avec passion puis ça m'intéresse vraiment.
Le combat, écoutez, c'est toujours disponible sur RF Vidéo puis sur iSpot.com pour en avoir des copies. Malheureusement, là, nous, on est à court de copies physiques de notre côté, moi et Pat Laprade. Donc, ce match-là est disponible via ces deux plateformes-là là, aux États-Unis où vous pouvez télécharger ou voir en visionnement là, ces éléments-là.
C'est fou à quel point qu'on apprend toujours quelque chose avec toi, Bertrand. Je connaissais pas l'existence de ce combat-là, puis moi, j'ai juste le goût de le voir, juste la manière avec la passion que tu en as parlé aujourd'hui. Je veux juste voir ce combat-là. C'est mon but ultime en ce moment.
Hé, hey, boboy!
Hé, hey, Seigneur! Hier, c'était d'avoir son char électrique, puis aujourd'hui, c'est de voir ce combat-là.
Jean-François Kelly, le gars des extrêmes.
Exact. Écoute, Bertrand Hébert, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode sur votre combat préféré. Il y en aura d'autres sans doute et il y aura d'autres invitations qu'on t'enverra. Tu es tellement un collaborateur précieux.
Merci.
Et bon boy, salut Bertrand. Voilà, c'est fait. Un projet de plus de 2 ans enfin concrétisé. Ma biographie « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie » coécrit par Bertrand Hébert est maintenant disponible en ligne au sim.shop. JF, on a eu Pat Laprade, oui, qui nous a dit son combat préféré, Drenuc, André Terrien.
Oui.
On a eu David Jouin,
oui,
et on a eu Bertrand Hébert plus ton combat et le mien. Et ça, on parle du monde, c'est de la haute gomme dans le monde de la lutte, c'est incroyable.
C'est une belle brochette aujourd'hui.
Oui.
Puis
oui.
Imagine la carte de rêve que ça serait si tous les combats qu'on a énumérés aujourd'hui là, auraient lieu.
On voulait parler du combat préféré de Pierre, mais Little Beaver, ça ne fait pas vraiment. Là,
non, lui, ça l'a marqué, hein, Little Beaver, qui s'est fait enfourcher par King Kong Bundy.
Oui, ouais, surtout que c'est pas c'est qui Bundy.
Non, monsieur!
Pour lui, c'était un tueur en série aux États-Unis.
Oh! Ouais. Mais vraiment, Marc, ce fut un épisode spectaculaire. Tu l'as dit en 2 entrevues, il faut vraiment répéter ça. Là. Donc,
oui,
il faut vraiment faire une deuxième partie.
Je sais qu'un gars comme Kevin Raphaël embarquerait au bout pour en parler. Je vais le faire aussi avec PCO.
Oui.
On va le faire avec Sylvain Grenier.
Oui.
En même temps qu'on prendra des nouvelles. Puis si tu as des suggestions de collaborateurs que je peux communiquer pour qu'ils nous parlent de leur meilleur combat, gênez-vous pas.
Ben, la prochaine fois en studio, moi, un que j'aimerais connaître l'opinion. Handsome GF, mais Matt Angel aussi, je l'ai texté, il n'était pas disponible aujourd'hui, mais pour la partie 2, ben, j'aimerais l'interviewer avec toi.
Tu le feras, pas de trop.
Vraiment, c'était encore super sympathique ici au studio PG à l'Épiphanie.
Et là, on tombe la semaine prochaine avec le chiffre 8-0. L'épisode 80,
oui.
On sera le 26 septembre et là, on va revenir sur la journée de Simmania 1.
Oui, bien là, écoute, comme on le disait, l'émission est préenregistrée avant Simmania 1, donc il faut attendre encore 7 dodo pour voir pour entendre qu'est-ce qui s'est passé à Simmania 1. J'ai bien hâte et je crois que déjà, même si on est en préenregistrement, que tu peux confirmer que Simmania 2 aura lieu.
Oui. Oui, je te le confirme.
Donc, tu confirmes que Simmania 2 aura lieu, que tes livres sont maintenant disponibles sur sim.shop.
Exact.
Donc, est-ce que quelque chose d'autre à dire à part bye-bye?
Soyez-y, mesdames, messieurs!